Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
La lecture d'un texte dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît, le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Seconde lecture, Matthieu, chapitre 6, verset 21. Verset 21 du chapitre 6. Et vous allez tout de suite deviner le sujet de notre réflexion. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'homme, créature de Dieu, est un être intelligent qui est doué d'une volonté possédant la faculté de choisir. Mais ce qui le caractérise particulièrement, ce sont les sentiments qu'il éprouve et qu'il éprouve. J'introduis le sujet, j'ai intitulé notre méditation ce matin, les affections abusives, et vous allez comprendre pourquoi. Et j'introduis donc le sujet par deux citations proverbiales. La première, c'est une citation norvégienne. Voilà. Il est dit ceci: le cœur de l'homme est la première chose qui s'agite dans le sein maternel et elle est la dernière qui meurt en lui. Je vous laisse méditer. La deuxième, nous la trouvons dans un proverbe persan qui dit ceci: la soif du cœur ne s'apaise pas avec une goutte d'eau. On va redécouvrir tout cela, mais je voudrais quand même vous donner un verset biblique. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, vous le connaissez, ce verset, naturellement. Alors, ceci dit, les sentiments, selon les cas, peuvent être bons ou mauvais. Ça, on le sait. Contradictoires. Et il leur arrive parfois d'être passionnés. Ça fait partie de la nature, naturellement, de l'homme. Et il y a à l'intérieur de lui-même, chez l'homme, un principe de vie supérieur à tous les autres, êtres, que l'on appelle l'âme, et que la Bible appelle couramment, communément, eh bien, le cœur. Voilà, l'âme, le cœur. Et le texte que nous avons pris pour référence, eh bien, souligne ceci et ajoute ceci: du cœur, de lui viennent les sources de la vie. Et c'est important que nous le prenions en considération parce que, effectivement, Dieu nous a donné la vie, mais cette vie, nous pouvons, comme j'en ai parlé, nous avons le libre arbitre, nous avons la possibilité de choisir, alors ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans un autre sens. De fait, il y a beaucoup de choses qui procèdent du cœur humain selon ses projets, selon ses pensées, selon ses raisonnements. Et nous voyons que tout cela a sur son existence morale, sa vie morale, sa vie spirituelle, sur son existence dans les choses pratiques, eh bien, nous voyons qu'il y aura une grande influence, considérable influence, en fonction de la manière dont il écoutera son cœur et il disciplinera, gérera son cœur. Et nous savons que ça peut aussi avoir de grandes influences aussi sur les autres autour de nous. Ça fait partie après de la personnalité, du tempérament et du caractère. L'Écriture sainte nous dit que du cœur procèdent les pensées, puis ensuite les actes. À moins d'être profondément irréfléchi. Hein. Mais en principe, ça se passe déjà dans la tête et ensuite ça se traduit par des actions. L'intelligence, la volonté, j'en ai parlé, le libre arbitre, c'est-à-dire le choix qui nous est propre. Les sentiments, eh bien, ont un moteur puissant au fond du cœur de chacun. On pourrait dire que c'est le pilote. Le cœur, eh bien, serait véritablement, eh bien là, le pilote de tout ça. Je vous donne quelques expressions que nous employons dans notre phraseologie. Avoir à cœur quelque chose. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, je peux vous donner l'explication. Avoir sur le cœur. Il y a des gens qui ont quelque chose sur le cœur. Hein? Et on n'a pas besoin donc d'ajouter, on le sait. Avoir un cœur léger, c'est synonyme de joie. Avoir un cœur lourd, c'est naturellement son contraire, la tristesse. Avant la chute, la parole de Dieu nous enseigne que le cœur était innocent. Il n'était pas saint, il était innocent. Et très rapidement, par la suite, il a vite dégénéré pour devenir parfois odieux, cruel, contestataire, avec des sentiments qui sont tout le contraire de ce que Dieu a fait pour l'homme, a créé pour que l'homme soit, c'est-à-dire eh bien, de la haine. Du refus de pardonner, enfin, toutes sortes de choses que vous connaissez aussi bien que moi. Et d'ailleurs, la première constatation, enfin, c'était pas la première, mais c'est celle qui est écrite et qui nous est consignée dans l'Écriture sainte, écoutez bien. Il nous est dit que, tout de suite après la chute, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Genèse, hein. Et que toutes les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, lui, le Seigneur aussi, a eu sur le cœur. Il nous est dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur en raison de l'état du cœur de sa créature, de l'homme. Donc, si nous avons vraiment besoin d'autres explications, moi je dirais simplement que le mal a sa racine dans le cœur. Avant qu'aucune action mauvaise voit le jour, elle mûrit dans le secret, au plus profond du cœur de l'homme, on dira son âme si vous voulez, et qui peut savoir ce qui s'y passe. Vous savez, c'est pas marqué quand quelqu'un a une mauvaise intention. Hein. Quand quelqu'un prépare un hold-up, c'est pas marqué sur lui, hein, mais c'est au fond de son cœur. Et il médite, il prévoit, il organise, il est en train de composer finalement son mauvais plan. Et pour le bien, c'est la même chose. Hein. Comme David le dira, moi je veux faire du bien. Hein, David le disait à Méphibosheth, je veux te faire du bien. Parce que c'était dans le cœur de David de faire du bien à Méphibosheth. C'est une belle histoire qui nous est racontée. Alors, il n'y en a qu'un qui le connaît, le cœur. Dans Jérémie, il nous est dit ceci au chapitre 17. Alors, c'est pas forcément très agréable à entendre, mais c'est le verdict, c'est l'analyse qui en est faite. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça revient à Genèse chapitre 6. Et l'interpellation qui nous est présentée pour tous ceux qui, à travers tous les temps, mais qui peut le connaître? Et voilà que Dieu va répondre. Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur pour rendre à chacun selon ses voies. Donc il faut bien comprendre que ce que l'on sème, on le moissonnera. Il n'y a pas d'autre règle. C'est comme ça que les choses se passent. On peut bien, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, hein, faire 100 fois le mal et le multiplier autant que vous faut. À un moment ou un autre, de toute façon, il y aura toujours des choses qui vont se retourner contre l'auteur et celui qui a pensé le mal et qui l'a mis en action. Jésus développera la véritable nature du cœur humain et ce qu'il est capable d'enfanter livré à lui-même. Je dis bien livré à lui-même, parce que dans le monde des chrétiens, c'est que nous avons déjà livré notre cœur à Dieu. Ah, quelquefois, on en retient quelques, Hein. On dit « Seigneur, je t'ai donné mon cœur, mais je ne te donne pas tout. Hein. » Parce qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir d'en garder un petit peu. Vous connaissez un petit peu le travail. Hein. Voilà, parce que c'est la bagarre permanente, hein, la dualité, naturellement. Alors, il en parle, et il en parle d'une manière assez vive, et il en parlera particulièrement, non pas devant les prostituées, les gens de mauvaise vie, les gens qui sont là, enfin, ceci et cela, il en parlera particulièrement devant les gens de la religion. Et il dira, vous êtes une bande d'hypocrites. Parce que finalement, vous n'avez rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand on descend, qu'est-ce que l'on découvre? Et ce n'est pas votre religion qui, finalement, elle vous sert peut-être d'un manteau, mais moi, je connais, j'éprouve les cœurs. Alors, convertissez-vous et changez. Hein. Ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Alors voilà, quand il nous est dit, par exemple, et Jésus fait lui aussi son diagnostic, chapitre 7, verset 21, je le lis, c'est simplement pour poser notre méditation. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, et ça se termine par la folie. Vous avez remarqué? L'aboutissement de tout ça, ça se termine par la folie. L'homme devient fou. Pas forcément à mettre dans un asile psychiatrique, mais il est fou. Hein. Il a perdu le sens. Il a perdu le sens des choses, le sens de la raison, le sens de la réflexion. Le sens de la sagesse a commencé par là. Les belles théories humanistes du XVIIIe siècle, je ne veux pas citer les inspirateurs de tout cela, s'effondrent du dedans vers le dehors. C'est-à-dire qu'on avait toujours pensé qu'il fallait changer la société, faire des gouvernements ou des économies plus justes, et puis finalement l'homme finirait par être un ange. Alors, depuis nos penseurs du siècle des Lumières, on s'aperçoit que ça s'arrange pas. Hein. Je ne sais pas si vous regardez l'actualité, non? Ouais. Alors, changer le monde, changer la société, changer le président de la République, enfin, il y en aura un autre après, hein, vous ne traguez pas, changer tout ce que vous voudrez, et puis voilà, l'homme va devenir bon. L'homme va s'améliorer. Il va grandir en sagesse, il va grandir en justice et tout ce que vous voudrez. Et malheureusement, la preuve de l'histoire ancienne, de l'histoire récente, de l'histoire que nous vivons aujourd'hui, eh bien, écoutez, il y a toujours des lois, il y a toujours des policiers, il y a toujours des tribunaux, il y a toujours ceci et cela. Rien n'a changé. Et heureusement que toutes ces institutions sont là, parce que imaginez-vous une société où il n'y aurait plus de loi, où il n'y aurait plus de gouvernement, où il n'y aurait plus d'autorité, où il n'y aurait plus ceci et cela, je peux vous dire... Il y aurait des problèmes de stationnement. Alors, je reprends. Mon fils, alors, c'est pour tout le monde, hein. Même ma fille, hein, si vous voulez. C'est aussi pour vous, mesdames, hein. Surtout, n'allez pas dire « je me bouche les oreilles » parce que c'est marqué « mon fils ». Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. La parole de Dieu est le seul guide fiable. » Alors on le croit ou on ne le croit pas. Le cœur ne peut rester vide. Il faut qu'il soit occupé toujours à quelque chose ou par quelque chose. En l'occurrence, et c'est l'interpellation, c'est l'exhortation qui nous est adressée à travers ces deux versets que je viens de citer, en l'occurrence, soit par les principes de vie que la Bible nous laisse, ou soit par notre propre sagesse, par nos désirs qui vont de ci, de là, par nos convoitises, si ce n'est pas franchement par un mal avoué. Vous savez qu'il y a des gens qui disent franchement qu'ils ont envie de faire du mal, hein. Ouais. Et ils se plaisent à faire du mal. Et ils y trouvent un certain plaisir à cette injustice de faire du mal. Alors ce sont des persécuteurs, ce sont des dominateurs, ce sont des prédateurs, c'est tout ce que vous voulez, mais leur vie c'est comme ça, elle est tournée dans l'autre sens. C'est dramatique, hein. Et quand ça arrive au niveau d'un individu, bon, c'est terrible, mais quand ça arrive au niveau des autorités qui dirigent, des peuples et tout ça, imaginez-vous, hein, ce que ça peut donner. Mais on n'a pas besoin de s'imaginer parce que finalement, on sait comment ça se passe. Dans le meilleur des cas, le conseil de Dieu donne la vie et assure la santé. L'équilibre moral et physique. Je cite le verset 22. « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Alors, quand on est en mauvaise santé physique, mauvaise santé morale, peut-être que nous pourrions aller visiter ou revisiter et un petit peu par-delà le diagnostic médical qui vaut tout à fait, il a ses raisons d'être, mais quelquefois de dire, eh bien, je suis pas bien, je suis malade. Mais peut-être que si je demandais au Seigneur qu'est-ce qui se passe, peut-être que Dieu nous dirait, par-delà peut-être un manque d'hygiène alimentaire, une hygiène de vie, de sommeil, tout ce que vous voulez, peut-être que Dieu pourrait nous dire, mais dis donc, c'est ton cœur qui est malade. Est-ce que tu sais, avec ta haine que tu as contre celui-ci ou contre celle-là, ce refus de pardonner, cette jalousie qui te détruit, qui te ronge comme la gangrène, alors peut-être que si tu veux, moi je peux y mettre la main, et puis je peux guérir ton cœur, je peux te soigner, et tu verras que tes maux d'estomac, que tes brûlures, et puis ceci et cela, tes maladies, comme on le dit aujourd'hui, psychosomatiques, ben, peut-être que tu te trouverais dans un meilleur état. Oui, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. L'Évangile a pour objectif de guérir le cœur malade. Alors on a souvent parlé que Jésus guérit divinement les corps, les aveugles, les sourds, les boiteux, les paralytiques, et ceci, et cela, et cela. Il y en a mais alors une profusion hein, dans les Évangiles. Mais je crois que le message principal de l'Évangile, c'est de guérir au fond de nous-mêmes, notre cœur, parce que ça change, vous savez, un cœur triste, le corps est appesanti. Un cœur joyeux, il saute. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, hein. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais il y a quand même un correspondant qui se voit quand on est heureux, quand on est épanoui, quand on est vraiment à sa place, quand on est bien dans sa peau et bien dans sa tête, ça se voit. Et vous avez des gens, et beaucoup de gens malheureux qui sont là, en disant « qu'est-ce que la vie est dure ? Oh là là, c'est pénible, vous ne pouvez pas savoir. » Alors c'est vrai que ce n'est pas encourageant pour ceux qui les regardent vivre, naturellement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. « Garde ton cœur, » nous dit le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On se souvient, les jeunes qui sont là, vous êtes au début de votre vie, de votre existence. Souviens-toi de ce verset. Garde ton cœur plus que d'autres choses. Et pourtant, quand on est jeune, notre cœur, il ressemble à un artichaut. Vous n'êtes pas choqué, non? On aime tout. C'est vrai qu'on aime tout, tout ce qui bouge, tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit. C'est formidable. Mais au bout d'un certain temps, l'artichaut, il commence à... Ouais, il faut quand même... Ouais, c'est vrai. On dit cela comme ça. Hein. Ouais. Garde ton cœur, parce que c'est de cette source-là que viennent les, eh bien, la vie. Plus que jamais, le monde offre de plus en plus des sollicitations attrayantes, fascinantes, brillantes, toutes sortes de séductions au cœur des hommes, et ce que nous devons garder avec la plus grande vigilance devant tout ce monde qui s'ouvre à nous. Il est vaste, ce monde. Il est infini. Eh bien, il faut garder notre cœur. On ne pourra pas empêcher d'entendre. On ne pourra pas empêcher de voir, parce que c'est la vie. À moins que vous soyez candidat pour rentrer dans un monastère, que vous vous renfermiez dans une cellule en disant « Je ne vis plus, je ne regarde plus, je n'entends plus. » Mais si vous êtes candidat, moi je ne vais pas avec vous. Parce que Jésus nous a dit le contraire. De vivre dans le monde... Voilà, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. C'est l'équilibre. Alors c'est notre cœur. Pourquoi cette conquête est-elle si importante? La réponse est claire. De lui viennent les sources de la vie. Ce qui suppose également que du cœur de lui-même, de ce cœur tout autant, viennent les sources de la mort. Tout dépend de l'option que je vais prendre. C'est les sources de la vie. Mais si je fais le contraire, je vais aller... aux eaux amères de la mort, de la destruction, de me nécroser moi-même, de me dégrader moi-même, de tomber peut-être dans un état qui va amoindrir mon énergie, mes forces, ma pensée, ma raison. À tel point que, dans un autre texte biblique, il nous est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort ». Vous connaissez hein, ce texte, hein. Il est souvent cité. Ouais, parce qu'on pense que c'est bien, et finalement, une fois qu'on est sur le chemin, on s'aperçoit qu'on a fait fausse route. Mais ce que je voudrais dire, que si quelqu'un a fait fausse route, moi je veux dire que le Seigneur est toujours capable de nous ramener en arrière et nous faire reprendre le bon chemin. dans la mesure où nous en prenons conscience, que nous nous repentons et que nous lui demandons son aide. Il n'y a pas de voie sans issue avec le Seigneur. Avec le Seigneur, sans le Seigneur, c'est autre chose. Alors, gagner un homme, c'est gagner son cœur. Alors ça fait partie de tout le jeu de la séduction. Naturellement, tant pour le bien que pour le mal. La Bible est affirmative quant à l'importance des décisions du cœur. Et même, on pourrait dire que la Bible compare le cœur à un gouvernail. Vous avez vu un peu les gros bateaux, là, ici à Saint-Nazaire, il y en a, et puis il y en a même des petits. Alors on voit, il y a des gens qui sont là, hein, moi je connais rien, je peux vous dire, mis à part ma voiture, c'est tout. Mais toujours est-il que ça sert à gouverner, à orienter naturellement tout cela. À orienter tout cela. Alors, nombreux sont les stimuli du monde. Les nombreux stimuli du monde ont une redoutable emprise sur nos affections et ce que nous aimons nous rend souvent faibles. Ouais. Quelle faiblesse du cœur as-tu, nous dit le prophète. Il y a une petite salle pour le bébé, si vous voulez. Hein. Je vous remercie. Quelqu'un peut accompagner. Voilà, je reprends. Les nombreux stimuli du monde ont une redoutable emprise sur nos affections et ce que nous aimons nous rend souvent faibles et parfois très faibles. L'homme a une multitude d'intérêts, mais finalement, il se trouve toujours en toute vie un intérêt majeur, une passion que nous appellerions passion maîtresse, qui impose sa loi, et va à l'encontre de notre bonheur. Ouais, va à l'encontre de notre bonheur. Qui peut dire qu'il est fort par rapport à ses sentiments ? Dans certains cas, dans certaines situations, nous pouvons dire, je prends cette décision, on est fort. Mais on a tous des points faibles. Et dans certains cas, on peut être plus faible qu'on le pense. Et on peut se laisser emporter. On a tous des vulnérabilités. Alors c'est vrai que dans toute la multitude des intérêts qui sont là autour de nous, eh bien, parfois nous pouvons prendre des options qui vont aller contre ce que Dieu et le plan de Dieu. Ce peut être l'ambition. C'est bien d'avoir de l'ambition dans la vie. Mais attention, si l'ambition nous amène à écraser les autres pour monter, alors à ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce peut être l'orgueil. Ça, c'est un problème chez l'homme. Parce qu'à un moment donné, en raison de l'orgueil, il est tellement enfermé dans sa tour d'ivoire qu'il pense que finalement, il devient Dieu. Il peut se croire être. Ce peut être le pouvoir. Il y a des gens, il ne faut jamais leur donner de pouvoir, hein, parce qu'ils vont vous écraser. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. La réussite. Ce peut être la sensualité. Ce peut être le goût des affaires. Comme Jésus en parlera, Mammon, vous connaissez, hein, et puis bien d'autres choses. Ce ne sont que des citations. C'est un besoin vital. Le cœur est toujours centré sur quelque chose. Je voudrais prendre une image maintenant. Le cœur est semblable à une roue. Vous savez, dans le temps, les roues de charrette, hein, il y avait des... Voilà. Bon, ça peut être une roue de voiture, ça peut être une roue de vélo. Enfin bon, vous imaginez ce que ça peut être. Une roue semblable... Une roue qui a des rayons, mais elle a un seul moyeu, c'est-à-dire le centre. Et, en quelque sorte, le cœur, c'est le point, ce que j'appellerais le point focal de notre personnalité. Ce que nous sommes réellement. Ce que nous ne sommes pas en apparence, mais ce que nous sommes dans le réel. Le vrai moi. Et en conséquence de quoi? Eh bien, des rayons trop courts ou trop longs, ça posera des problèmes. Des rayons cassés ou endommagés, ça va poser des problèmes. Des rayons manquants ou entravés, eh bien, ça ne tombe pas rond. Et je crois qu'il faut bien resituer que Dieu nous a fait un cœur qui est le siège de notre personnalité, mais il faut que tous ces rayons qui sont autour, il y en a des multitudes, hein, eh bien, il ne faut pas qu'ils soient ni courts ni trop longs. Il ne faut pas qu'ils soient cassés, endommagés, il ne faut pas qu'ils soient manquants ou entravés, parce que ça ne va pas tourner. Et j'en arriverai à nos affections légitimes. Jésus en parle librement dans la Bible. Les affections légitimes, indisciplinées, exagérées, déséquilibrées, aveuglent la réalité et peuvent devenir coupables, injustes, partisanes et discriminatoires. Vous faites peut-être allusion à certaines choses que vous pensez, mais ça c'est une réalité. Dieu veut que nous soyons des êtres équilibrés en amour, équilibrés dans nos affections, équilibré dans nos sentiments, équilibré dans notre affect, et c'est lui qui va régler l'horloge. C'est pour ça qu'il nous en parle ce matin. Parce que, je prends l'exemple des affections même légitimes, je ne vous parle pas des affections coupables, parce que là, bon, on sait ce qu'il faut faire, mais les affections légitimes, les liens familiaux, les liens conjugaux, et puis tout cela, les ascendants, les descendants, enfin les collatéraux, tout ce que vous voudrez. Vous avez déjà entendu parler du favoritisme ? Vous avez déjà entendu des chouchous de famille, des préférences ? Eh bien là, ce sont un petit peu des rayons qui sont trop longs ou trop courts, ou les mal-aimés dans une famille, parce que quand il y a une préférence, il y en a toujours un qui reste sur le côté, hein, vous comprenez ? Et puis, toutes sortes de choses. Ça endommage aussi la vie des autres. Ça casse quelque chose dans cette relation d'harmonie, en quelque sorte. Et puis, il y a souvent des accidents ou des incidents, volontaires, voulus ou non, où on entrave, finalement. Hein ? On met des bâtons dans les roues, en quelque sorte. Hein ? Voilà. Et ça, ça peut amener, finalement, à être injuste. Ça peut nous amener à être coupables, à être partisans et à favoriser l'un et à défavoriser les autres. Hein. Quand on habille l'un, c'est pour on déshabille l'autre pour habiller l'un. Ça, c'est cela. Alors, c'est un besoin vital, donc, je le répète, le cœur est toujours centré sur quelque chose, mais il doit, un jour ou l'autre, se fixer sur son véritable centre, son véritable appui. En d'autres termes, son créateur et son possédeur, c'est Dieu. Parce que lui, il est capable de réparer nos cœurs. Qui peut dire qu'il est équilibré parfaitement dans la vie ? Nous aussi, on a des tiraillements, quelquefois, pour des préférences, pour ceci et cela. On est pris d'un engouement subi pour une aventure ou une autre. Et on sait très bien, malheureusement, que certaines aventures, elles mènent loin. Les parents le savent très bien avec les enfants, quand ils prennent une direction, on se dit, mais... Parce qu'on a de l'expérience quand même, on a un petit peu de longueur d'avance sur nos enfants. En principe, les parents sont toujours un petit peu plus âgés que les enfants. Et c'est, ils ont du mal à le croire. Hein. Mais on a un peu d'expérience et quelquefois on les voit partir dans des aventures surtout sentimentales ou autres. On se dit misère, ils voient pas clair parce qu'il y a un mur devant, ils vont le prendre. Hein. Et quelquefois ça se termine mal. Ça se termine mal parce que quelquefois il y a des enfants, il y a toutes sortes de choses. Alors Seigneur, alors c'est vrai que notre cœur peut voltiger, il peut flirter, il peut errer. Il peut soupirer très longtemps avant de trouver sa vraie position, son vrai positionnement. Si ce n'est pas Dieu qui occupe la première place, il y aura toujours quelqu'un d'autre ou une autre chose. Et c'est quelqu'un d'autre et autre chose, la Bible a un nom pour l'appeler. Elle parle d'idole. Ouais, ça vient souvent hein, le mot. Idole. Et vous savez que le mot dans son étymologie, idole, ça veut dire image vaine. Quelque chose qui n'a pas lieu, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui, tout simplement, est virtuel. Image vaine, qui n'aboutit à rien, qui ne mène à rien. Ou si ça mène à quelque chose, ça n'amène qu'aux pleurs, au chagrin et au regret. Parce que l'idole est un maître. On le sait. Le cœur humain ne peut rester vide. Et Jésus l'a dit, et je le répète à dessein, nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, nous le savons. La Bible dit que le seul vrai maître du cœur de l'homme, c'est celui qui l'a créé. Et d'autant plus pour nous qui sommes chrétiens et engagés, le véritable maître de notre cœur, c'est celui qui nous a créés et c'est celui qui nous a sauvés. Et il nous a sauvés pour que notre cœur... Eh bien, trouve sa véritable dimension. C'est un droit que notre Dieu a, c'est un droit de création et c'est un droit de rédemption. Dieu est le seul qui puisse réellement donner au cœur sa vraie dimension de satisfaction et d'épanouissement, en d'autres termes, d'équilibre. Vous connaissez la fameuse histoire de la Samaritaine pendant toute une vie entière, enfin, elle devait être encore une jeune femme. Et pendant toute sa vie, elle a papillonné. Elle a butiné de droite et de gauche. C'était sentimental chez elle. Elle cherchait l'homme idéal. Ça existe. Hein. Bon, bien sûr. Bah, on est là pour vous le dire. Donc, elle cherchait, je reprends. Vous me troublez. Voilà. Parce que vous doutez. Donc, elle cherchait l'homme idéal. Et elle a tout essayé. Elle a essayé beaucoup de choses. Jésus va lui dévoiler, il va lui faire une, on pourrait dire, un scanner de sa conscience à un moment donné. Et jusqu'au jour où elle a véritablement rencontré en Jésus qui n'était pas le même que tous les autres hommes qu'elle avait connus. Il y avait toujours quelque chose de particulier. Quelqu'un qui pouvait l'aimer telle qu'elle était dans son péché, dans les affres de ses souffrances, de ses déchirements, de ses déceptions. Elle a vu que Jésus, pouvait lui donner autre chose. Et il ne la regardait pas comme une femme à convoiter. Il la regardait comme une âme à sauver. Et ça, c'est toute la différence. Et là, elle s'est sentie aimée d'un seul coup. Elle se s'est dit, maintenant j'ai trouvé. Et son cœur a été réparé. Son cœur a été guéri. Son cœur a été transformé. L'histoire de notre Samaritaine. C'est une belle histoire que vous pouvez retrouver. Et on entend encore ces paroles qui peuvent résonner aussi à nos oreilles. Ils sont bien dans la Bible, hein, dans le livre du prophète Ésaïe. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, dit Dieu, ton bonheur serait comme un fleuve. » Parce que ton cœur serait apaisé, parce que ton cœur serait nettoyé, parce que son cœur aurait été réparé. Il a été finalement remis en marche. Pour chaque homme, il y a une dualité. Ça, c'est la vie. Nous allons revenir maintenant, brièvement, aux affections abusives qui prennent la place de Dieu. Dieu, je le dis tout de suite, est le Dieu de la vie. Il a créé le monde et tout ce qu'il renferme pour que nous en jouissons. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a certaines théologies religieuses qui disent « Ah non, 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 attends, c'est... » La jouissance, elle est coupable. Hein. Tu manges pas, tu goûtes pas, tu regardes pas, tu respires pas, vous n'allez pas aller loin. Non. Dieu a fait les choses pour que l'homme puisse véritablement en jouir pour remercier le Seigneur. Pour bénir le Seigneur, pour l'adorer de ce qu'il nous a donné de si beau et de si grand. Il a fait la joie, il a fait le bonheur, il a fait l'amour, il a fait la tendresse et toutes les belles choses que nous offre la vie, parce que c'est lui qui est le dispensateur de tout cela. Le danger consiste à mettre au centre de notre vie ce qui normalement devrait rester en périphérie. On a bien dit, la place de Dieu, c'est lui au fond de nous-mêmes. Mais il y a parfois, des choses qui vont un peu de droite et de gauche. Ce peut être les biens matériels, nous sommes dans une société de consommation en outrance aujourd'hui. Il faut ce qu'il faut, mais aujourd'hui on s'aperçoit que les gens ne vivent plus que pour le bien matériel, pour l'argent, pour posséder, pour gagner de plus en plus. Ce peut être le travail. Rester dans ces bonnes proportions, le travail est une source de joie, une source de bonheur, de profit naturellement. Ce peut être les loisirs, ce peut être les plaisirs. Et de ne pas en faire de tout cela, une idole qui va supplanter tout le reste. Et cela devient à un moment donné destructeur. L'homme qui court après l'argent et qui délaisse sa famille. L'homme qui part avec des passions. Moi j'ai vu, j'ai connu un jeune homme, jeune marié, qui n'avait que... Il avait une passion, c'était de faire du surf. Et à part son travail, et puis tout le reste de son temps libre, il faisait du surf. Sa femme, c'est un chrétien, c'est malheureux, sa femme souvent venait nous voir en disant « Mais vous avez vu mon mari ?» Alors moi, comme je ne fais pas de surf, je ne suis pas la trace. Mais vous savez comment ça s'est terminé? Elle a dit « Bien, il est marié avec sa planche, qu'il reste avec sa planche. » Et voilà, et c'est terrible. Et il avait 3 enfants. Il n'a rien voulu entendre. Terrible, terrible. Alors voilà. On en est là, c'est pour montrer, d'une manière exagérée, peut-être significative, mais là où ça peut être, parce que vous savez, les choses, elles auront toujours moins de valeur que les êtres. On est d'accord. Ah, quelquefois, il y en a qui préfèrent peut-être avoir la compagnie d'un animal que la caprée d'un homme ou d'une femme. Mais bon, ça, c'est encore une autre affaire. Et c'est terrible, ça, parce que ça devient destructeur à terme. Il y a beaucoup de bienfaits que Dieu a fait et nous a donnés pour que nous en jouissions et non que nous en arrivions à les adorer. On a une expression passe-partout dans notre langue française. On dit « j'adore ». Ah, j'adore ma voiture. J'adore ceci, j'adore cela. Mais non. Les Anglais sont plus justes dans leur expression « I love, I like ». Donc c'est quand même un petit peu différent. Parce que ça cible. Mais nous, chez nous, on a le même mot pour tout. J'aime, j'adore. Adorer autre que Dieu, c'est un péché. Je le répète, c'est un péché. Et cela est le témoignage symptomatique d'un dérèglement affectif qui se manifeste par l'égoïsme, l'ego, tout pour moi. vouloir posséder, avoir à soi. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne se méprendra pas quand il écrira à son ami Timothée, futur pasteur, il lui dira « Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. » Première chose parmi tant d'autres choses, égoïstes. On s'aperçoit qu'il y a un déplacement d'affection abusive au point que qu'elle finisse par nous tenir. Que ce n'est plus nous qui dominons, mais ce sont ces choses qui nous tiennent et dont nous ne pouvons plus nous en passer. Et à ce moment-là, eh bien, on entend cette parole qui résonne comme nous l'avons lu, « Garde ton cœur plus que de toute autre chose, puisque Dieu nous a appelés au bonheur et nous a appelés à la liberté. » Donc, ces choses ne nous donnent pas le bonheur à terme, et en plus, elles nous privent de la liberté. Cela s'appelle une passion. Aujourd'hui, en termes médicaux, on parle d'une addiction, pas d'une addition. Une addiction. Et ça veut dire tout simplement des liens douloureux. Celui qui est en addiction de l'alcool, celui qui est en addiction de la drogue, celui qui est en addiction de ceci et cela, c'est plus un homme libre. Et pourtant, il dit, moi je fais ce que je veux, je suis libre. Non, il n'y a plus qu'une chose qui compte dans sa vie. Au mépris de tout le reste. Et c'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'une passion ? La passion dans le monde, vue par le monde, a été créatrice de grandes choses, hein, il faut bien quand même le dire. Les artistes, la musique, la peinture, les arts en général. Les passions ont été quelque chose à la fois peut-être de grandiose mais de dramatique. Quand il s'agit d'hommes d'État, d'hommes politiques ou de conquérants, la passion. Il faut en voir la nature, il faut connaître ce qu'il y a derrière. Quelle est la nature des choses ? On parle souvent de la passion de Christ. Mais la passion de Christ, elle était faite pour nous sauver, et pas pour nous détruire, pas pour nous ruiner, pas pour faire de nous des esclaves, mais des gens libres, des gens qui sont en pleine possession, de leur capacité de dire oui et de dire non. Que celui qui est addict, il ne peut plus dire non, ou il ne peut plus dire oui. Ça dépend dans quel sens on voit les choses. Et c'est terrible. La passion a le pouvoir, affectivement, d'absorber toutes nos énergies. En engloutissant notre capacité volontaire, notre capacité de choisir. C'est ce que je disais il y a un instant. Elle nous mange. On a vu des hommes et des femmes pleurer devant leur addiction, en disant « je voudrais, mais je ne peux pas. Je ne peux plus. C'est terrible. C'est dramatique. » On a vu des chrétiens ne pas pouvoir sortir d'une situation parce qu'ils étaient prisonniers. C'est la passion. Et derrière la passion, il faut bien se dire, si ce n'est pas Dieu qui gère notre passion... Eh bien, moi, je peux vous dire, parce que la Bible est là aussi très prolixe pour en parler, si ce n'est pas Dieu qui gère notre passion, eh bien, c'est un autre, et c'est le diable. Derrière l'alcool, moi, je crois qu'il y a des liens malsains. Derrière la drogue, derrière toute dépravation, derrière toute corruption, il y a une mainmise invisible, mais qui détruit. D'ailleurs, on en voit le résultat. Quand on voit tous ces gens en arriver parfois, eh bien, à mettre un terme à leur vie, ce qu'on appelle le suicide, parce qu'ils ne peuvent plus supporter, parce qu'ils sont dominés. Faisons attention à l'occultiste et à la magie. Vous savez, tous les gens qui courent de droite et de gauche pour savoir ce qui va arriver demain. Ben, vous feriez mieux de vous occuper de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Parce que là, ça, c'est quelque chose qui est encore plus grave que tout le reste. Addict de la magie, de l'astrologie et tout cela. Faisons très attention. Là, on ne s'en sort pas ou dit très difficilement. L'objet de l'amour, à ce moment-là, quand il y a passion, est immodéré. Et il aveugle. Les gens disent, mais non, moi je suis heureux. Alors qu'on les voit vraiment complètement à courir et complètement omnibulés par ce qui les domine. Ça devient aveugle, ils deviennent aveugles. Et cela occupe l'esprit, cela fait rêver. Et avant de cauchemarder, cela enchante, cela enthousiasme. Ça commence par la joie et ça finit par la peine. Vous croyez qu'il y a des alcooliques heureux ? Vous croyez qu'il y a des jeunes qui se droguent, qui se calment au maximum et qui sont heureux ? Vous croyez que tous ceux, on pourrait citer tant d'exemples, vous croyez que ces gens sont heureux ? Ils sont vraiment malheureux, moi je pense. Et on est là pour le dire, nous en tant que pasteurs, on les recueille. On récupère quelque part, hein. C'est sûr. Hein. Parce que finalement, quand ce souffle qui vous fait, qui vous porte aux nouilles, qui vous donne de retrouver une nouvelle jeunesse d'une manière ou d'une autre, ou d'échapper peut-être au cauchemar de la souffrance de l'existence, mais quand ça s'arrête, c'est la déception, et c'est la descente, c'est la souffrance. On passe à un moment donné, comme dans le domaine de la drogue, ce qu'on appelle médicalement le poulet froid. C'est terrible, hein ? Parce que là, c'est une force, une forme de désintoxication. C'est affreux, hein ? C'est affreux. Et cela conduit parfois à la mort. Chaque chose a sa place. Mais le mal vient quand nous lui ou accordons à chaque chose plus de place et plus de valeur que ces choses n'en méritent. C'est un déplacement. Le terrain tant convoité, pour la première place, c'est encore le cœur. Parce que le cœur, c'est le gouvernail de la vie. Alors, plus loin encore, j'ai parlé des choses et je vais terminer maintenant sur les êtres. L'amour des êtres peut être une addiction, une passion, une addiction. Ce peut être une femme, même si elle est légitime. Si c'est une maîtresse, c'est encore autre chose. Un mari, vice-versa. Ce peut être un enfant. Ce peut être les amis, un ami, un fiancé, tout ce que vous voudrez. Que l'on étouffe de peur de le perdre. Ah, le sentiment maternel est une belle chose que Dieu a donnée. Et vous élevez des enfants. Le rôle du père, le rôle de la mère. Mais vos enfants, ce sont des personnes. Vous prenez soin d'eux, vous les aimez, et il faut continuer à les aimer, mais à un moment donné, ils vont vous échapper. Parce que si vous voulez les garder, si vous voulez les conserver pour vous, vous allez les perdre. Et vous allez leur faire perdre leur vie, parce qu'ils ne deviendront jamais des personnalités. Tellement étouffés. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de drames dans les personnalités. Tellement de gens qui n'arrivent plus à vivre, à s'insérer dans la vie sociale ou à trouver un mari ou une femme, c'est parce que peut-être ils ont été dominés par un père ou par une mère d'une manière ou d'une autre, soit par une tendresse excessive ou peut-être par l'autre, le contraire, la rudesse et la brutalité. Mais à un moment donné, il faut qu'absolument la personnalité se développe. Et là, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Les affections abusives de perdre, son enfant, de perdre ceci et cela, où on est prêt à tous les compromis, on est prêt à faire toutes sortes de compromissions avec notre propre conscience en disant « ben je lui donne ça pour pas qu'il me quitte ». Oh là là, c'est terrible. Et vous savez ce que nous dit Job ? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Non, nous avons des enfants, il faut les laisser vivre. Il faut en faire des personnes matures et il faut développer finalement leur capacité à devenir des hommes et des femmes. Mais le monde est ainsi fait, c'est que souvent nous transmettons ce qu'on nous a fait nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents, et puis nous le reportons sur nos enfants. C'est un cercle vicieux tout cela. Et ce cercle, il peut être brisé dans la mesure où quelqu'un s'approche de Jésus et c'est lui qui va remettre tout en place. Jésus aborde la question dans Matthieu chapitre 10 verset 37. Il dira « Celui qui aime son père, sa mère ou sa fille, son fils, plus que moi, n'est pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. » Et il va fort, hein, Jésus, là. Il passe pas par quatre chemins. « Si quelqu'un, dira-t-il dans l'évangile de Matthieu, me semble-t-il, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, son frère, sa sœur, il n'est pas digne de moi. » Quand il est question de haïr, il n'est pas question de haïr au sens où nous entendons, mais d'aimer moins. De donner la priorité à Dieu, de donner la priorité à l'Évangile. Pourquoi ? Parce que pour bien aimer, savoir aimer, il faut l'apprendre de celui qui nous a créés, c'est-à-dire de l'apprendre de celui de Jésus. C'est lui qui peut remettre cette horloge en place, si souvent un petit peu qui déraille. L'homme livré à lui-même ne sait pas aimer convenablement, parce qu'il passe d'une passion à une autre. Il travaille à développer son égoïsme. Quand il dit qu'il aime une autre personne, mais quelquefois c'est pour être aimé lui-même. C'est pas pour donner, c'est pour recevoir. C'est ça ce qui est terrible. Quand le cœur est enflammé par l'amour, il est porté à tous les excès et tous les abus, et il devient fou. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, parmi toutes les turpitudes du cœur et toutes les déviances du cœur, il nous est dit la folie. Il devient fou. Vous avez vu quelqu'un qui est fou ? Ça ne se voit pas comme ça au premier abord, mais dans ses comportements, dans ses réactions et tout ça, c'est la possession. Il veut garder à tout prix et tout ça. Il y en a même qui renferment ceux qu'ils aiment. Tu ne sortiras pas parce que je vais t'avoir sous les yeux et puis tu ne feras pas ceci. On choisit à la place de l'enfant et bon, quand ils sont petits, c'est normal. On veut tellement les protéger. On veut tellement les garder dans notre giron. On se dit, ben, à côté de moi, il sera bien. Non, il n'est pas bien. Parce que vous allez voir, à force de garder les enfants, moi je parle sur le plan familial, hein, vous allez voir quand ils vont avoir 18 ans et quand ils vont s'apercevoir qu'ils ont des ailes. Ils vont sortir du nid. Hein. Et là, ça fait l'effet contraire. Parce que en ayant été privé, gardé, coucouné, dorloté, et tout ce que vous voudrez, je n'ai pas tous les mots, hein, mais enfin, je ne vais pas vous passer tout le dictionnaire, mais toujours est-il qu'à un moment donné, quand ils vont s'apercevoir qu'il y a un autre monde, une autre vie, en dehors de papa et maman, je peux vous dire, ils vont vous faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Hein. Parce qu'ils vont y aller sans réflexion, ils vont y aller sans retenue. Écoutons une dernière fois le sage conseil de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Par-dessus, priorité à Christ qui anoblit et purifie nos affections. Est-ce que nous prions, nous, dans nos couples, est-ce que nous prions dans nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui sont avant ou ceux qui sont après, peu importe. Est-ce que nous prions pour que Dieu purifie nos cœurs et nous donne l'équilibre dans notre cœur ? Seigneur, donne-moi d'aimer, mais d'aimer comme toi, tu aimes. Donne-moi d'aimer convenablement, donne-moi d'aimer comme il faut que j'aime, parce que je veux faire du bien, parce que si j'aime d'une mauvaise manière, automatiquement, puisque c'est mauvais, je ferai du mal. Et je vais me faire du mal aussi en même temps. Jésus anoblit et purifie nos affections, c'est une règle d'or. Aimer n'est pas tant pour recevoir qu'aimer est fait pour donner. C'est fondamental, ça. Hein. Si moi, je dis « je t'aime pour que tu me donnes quelque chose », alors ça, c'est pas bon. Hein. Mais je t'aime pour te donner, pour que tu sois vraiment comblé. Alors, mais vous verrez, vous aurez le retour, hein, parce que quand on aime, on reçoit le correspondant, c'est normal. Mais si on se donne la priorité à soi-même, c'est perdu. L'amour de Christ nous fait aimer sainement. Il y a ce texte, et je termine, dans l'évangile de Jean, où la question est posée dans... Vous connaissez l'histoire de Pierre, hein, quand après la résurrection, nous avons cette parole où, chapitre 21 et au verset 15 à 17, il est dit ceci, c'est Jésus qui rencontre Pierre, il va lui poser la question. Voilà. Jésus, je reprends un peu plus haut, après qu'ils eussent... Qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je sais, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. C'est une très belle illustration dans la Bible. Pierre qui avait promis à Jésus un amour indéfectible. Comment ça se termine cette première aventure ? C'est lui qui va renier le premier Jésus. Il va le renier. Et pourtant, il lui avait dit, tu sais, hein, « Je te suivrai partout où tu iras. Même si tu passes par la mort, moi je te suis. Hein. » Puis le jour où il a vu que Jésus était prisonnier, alors à ce moment-là, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y avait plus personne. Jésus nous dit, à nous aussi, « M'aimes-tu plus que ?» La question est posée pour chacun d'entre nous. Où nous en sommes dans nos affections, dans l'équilibre affectif, dans l'équilibre sentimental? Attention au romantisme. Jésus nous dit la même chose. M'aimes-tu plus ? C'est une vibrante, une brûlante question qui doit nous amener à nous interroger sur ce que nous aimons vraiment et qui nous devons aimer en priorité. On aime la vie, hein ? Moi, j'aime la vie. Et vous aimez aussi la vie. Mais dans la vie... Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, c'est la foire aux vanités. Il y a tout, n'importe quoi, il y a du bien, il y a du mal, il y a tout. Hein. Qu'est-ce que nous allons aimer plus ? Les doubles affections, ou les affections concurrentielles, sont toujours conflictuelles et douloureuses. On le voit dans le cas d'un d'un mari ou d'une femme volage. Il ne veut pas quitter sa femme parce que c'est sa femme, mais par contre, il veut garder sa maîtresse. Et je peux vous dire que c'est la comédia. C'est pas triste. Alors, les doubles affections. Donc, ça nous rend malheureux. Jésus pose la question à Pierre une seconde fois, une troisième fois. M'aimes-tu plus qu'eux ? La sagesse de l'Évangile veut que nous donnions la première place à Dieu, parce que s'il n'est pas le Seigneur de tout, il sera le Seigneur de rien du tout. Il ne sera le Seigneur de rien du tout. Il veut être le Seigneur de tout ou de rien, tout simplement. Jésus ne veut pas des bonnes œuvres ou des sacrifices. Il veut notre cœur. C'est bien ce que la religion a fait. Au lieu de donner son cœur, Jésus le dira, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi en parlant d'Israël. Et c'est pas parce qu'on va faire des sacrifices, c'est pas parce qu'on va venir au culte, c'est pas parce qu'on va avoir la Bible sous le bras, c'est pas parce qu'on va chanter des cantiques, c'est pas parce qu'on va faire ceci et cela, tout ça, c'est du religieux, enfin, on pourrait le dire dans un certain domaine, mais tout ça, ce sont les choses extérieures. Le Seigneur ne nous demande pas tout ça, il dit, moi, je me plais à ce que tu me donnes ton cœur. Ça, c'est le principal. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, nous dit le livre des Proverbes. Et un dernier aspect de la question, et ça sera la conclusion, et je la terminerai sur ce que Paul nous dit tout simplement dans 1 Corinthiens chapitre 3 et versets 21 à 23, il nous dit quelque chose quand même qui est très intéressant. Voilà, chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, écoutez bien le mot, tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ça, j'ai trouvé que c'est une parole formidable, extraordinaire. Ouais, tout est à vous, mes frères et sœurs, tout est à vous. Par la foi, tout est à vous. Nous sommes là à disposer d'un trésor immense de grâce, de bénédiction, d'amour, d'affection, tout ce que nous voulons, c'est à nous. Si notre cœur est fixé sur un objet ou un être cher, égoïste, limité, étroit, alors toutes nos énergies seront centrées ou sont centrées sur un intérêt fugitif, parce que ça disparaîtra un jour ou un autre, et quelque chose qui nous ramènera à nous-mêmes, ce sera propre et personnel, mais ça n'enrichira personne d'autre. Ça pourra nous détruire et peut-être détruire les autres. Or, Dieu a créé l'homme pour qu'il aime toute chose, qu'il possède toute chose et ne soit pas lui-même, par ses limitations passionnelles ou addictives, esclave de ce qui possède son cœur. Vous savez, le cœur, c'est véritablement le moteur. À ce moment-là, si mon cœur est libéré de son esclavage, d'un quelconque esclavage, je suis un homme libre. La volonté de Dieu est que ses créatures ne vivent pas étriquées et dans la mesquinerie de l'égoïsme, mais réalisent pleinement le tout à vous de ce paragraphe que nous avons lu dans Corinthiens. Tout est à vous, la vie, la mort, le ciel, la terre, ceci, cela, ça vous appartient. Et ça, ça s'appelle la vraie liberté. Il y a trop de gens qui se proclament croyants et qui sont des gens qui se disent libres et qui marchent comme des esclaves. Nous devons comprendre que pour posséder librement, il faut au préalable nous détacher de toute affection exagérée, de tout amour qui prendrait les proportions, qui couvrirait et qui ferait de l'ombre à celui qui doit être le Seigneur et le Sauveur de nos cœurs. Tout simplement, on reconnaît un homme à son cœur. C'est la deuxième lecture que nous avons faite en préambule. Là où sera ton cœur, là sera ton trésor. L'Écriture dit que nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Alors servez-vous. Vous avez tout pleinement Jésus-Christ. Servez-vous, prenez. Mais laissez-vous guérir. Laissons-nous. Je m'implique. Laissons-nous guérir par le Seigneur. Parce que quand on sait qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous, si nous possédons comme objet premier de notre amour Jésus-Christ, alors nous possédons toutes choses. Alors peut-être que vous posez la question, mais Dieu, est-ce qu'il va me déposséder? Est-ce qu'il va me démarier? Est-ce qu'il va me mutiler dans mes amours possessifs? Écoutez, je vous réponds non, parce que ce n'est pas le processus de Dieu. Il connaît nos tendances, il connaît nos faiblesses, il connaît nos points faibles, il sait où nous accrochons. Là où nous sommes encore, eh bien, peut-être encore ligotés, emberlificotés d'un je ne sais quoi, alors Dieu ne va pas nous enlever tout cela. Cependant, il va faire en sorte, au contraire, je sois rempli de la plénitude de son esprit, afin qu'ensuite, je puisse jouir de toute chose. C'est le pouvoir, finalement, de l'occupation de l'espace de mon cœur par l'amour. Si un amour est plus fort qu'un autre, eh bien voilà, à ce moment-là, il triomphera. Et cet amour de Dieu doit être plus fort que tous les autres amours sur la terre. Et il m'aidera, il sanctifiera, il purifiera tout ce que je peux aimer autour de moi. Ça, c'est la clé. Alors, il m'interpelle ainsi, comme un poète l'a écrit, j'aime bien les poèmes, hein. Proverbes, poèmes et tout ça, les citations. Alors je vais vous laisser tout simplement pour finir. Dieu interpelle les hommes. Ce poème a écrit ceci. Et il parle à la place de Dieu. Il parle comme si c'était Dieu qui parlait. Tout ce que je t'ai pris, je l'ai pris non pour te blesser, mais pour que tu puisses venir le chercher dans mes bras. Alors lève-toi. Saisis ma main. Et viens le prendre dans la maison. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous aide. Alors mes frères et mes sœurs qui vous bataillez, qui vous tiraillez, ou qui êtes tiraillés d'une manière ou d'une autre, le Seigneur veut vous faire du bien ce matin. Il veut remettre les choses en ordre. Il y a bien des choses que nous remettons en ordre dans nos maisons, mais la véritable maison, eh bien, c'est au fond de nous-mêmes, dans notre cœur, et le Seigneur va nous donner le bonheur, la joie, l'épanouissement, et la liberté. Que Dieu nous bénisse.